Salut tout le monde, c'est Melvin et bienvenue sur Home Papers. Ici, on parle de sport, de handball, de féminin. Et aujourd'hui, je reçois Stine Oftedal. Elle est 3 fois championne d'Europe avec l'équipe nationale de Norvège, 2 fois championne du monde. Elle a été aussi médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. En 2019, elle a été élue meilleure joueuse de handball du monde et elle a gagné 2 fois la Ligue des Champions avec son club de Győr en Hongrie. Bon, c'est vrai que c'est un palmarès assez impressionnant, mais en fait, ce qui m'inspire le plus chez elle, c'est la manière dont elle est structurée et organisée autour de son plus grand rêve, qui était de devenir une des meilleures joueuses du monde, si ce n'est la meilleure joueuse du monde. Et faut pas se méprendre, pour moi, il n'y a pas un rêve qui vaut mieux qu'un autre. C'est-à-dire que moi, écouter Geneva Tangent qui rêve d'être à la fois naturopathe et de vivre de sa passion du handball, bah, ça m'inspire tout autant. Dans les deux cas, j'observe 2 joueuses, en fait, qui rêvent pour elles-mêmes et qui ne font pas de leur vie un rêve que quelqu'un aurait décidé pour elles, que ce soit les parents, que ce soit ce que l'on dit autour d'elles. Et ça, je trouve que parfois, ça demande un vrai courage quand on a été dans des structures de pensée qui ne nous ont pas forcément permis d'être vraiment libres dans nos choix. Et moi, ça m'inspire vraiment, parce que déjà, je trouve que c'est une des meilleures manières de briller et d'être vraiment heureuse. Et en plus, je trouve que ça donne de l'énergie, en fait, pour se lever tous les matins face aux impermanences de la vie, en fait. Dans cet épisode, on revient sur la manière dont elle a construit son rêve, justement, étape par étape et avec le sourire. On évoque son rapport à la défaite et à la victoire, mais aussi ses prochains rêves. J'ai connu Stine à Paris, et à cette époque, son français était impeccable. Mais depuis, 5 années sont passées, et elle préférait enregistrer cet épisode en anglais. Alors, pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais, j'ai repris ma voix au montage. Du coup, mes questions seront en français. Et à chacune de ces réponses, j'essaye de rebondir pour que vous puissiez nous suivre. Alors, je vous souhaite une très belle écoute, et j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu, et que la manière méthodique et joyeuse d'apprendre de Stine vous inspirera. Alors pour commencer Stine, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites pour les personnes qui ne te connaissent pas?
So Stine Oftedal, I'm a Norwegian handball player who plays right now in Hungary for Győr. Always hard to introduce yourself, isn't it? But yes, no, but I'm getting older. I'm soon 30 years old. Wow. Huh? Yes, right? This year, actually. So as a handball player, that starts to, I'm experienced suddenly. I'm a quite calm girl. I enjoy the easy things. I have a boyfriend who I unfortunately don't see so much. Same with my family right now. So my life situation in that way is very stable, but at the same time, it's different and it's a little distanced. So yeah, that's at least some words.
Alors moi, dans l'introduction, je me suis sentie obligée de présenter ton palmarès sportif. Tu cumules 5 titres européens, 2 titres mondiaux, tu as été nommée meilleure joueuse du monde. Et donc ma première question en fait c'est quel était ton rêve quand tu étais enfant?
Yeah, that's huge title. So I should maybe have said ambitious as well. I don't know when you say that, but yeah. But as a kid it was actually quite early my dream to play with national team. My mom, she told me that quite early, I think already around 8, 9, I said that out loud that, yeah, I want to play with the national team. At that point, and still, the Norwegian national team was a huge thing. Everyone gathers in December to watch them. So that was something that I had quite early. And then after that, a few more years into my starting part of my career, then this Olympic dream also started to evolve a little. So I think that's maybe the two biggest things that I had.
En fait, ce que je trouve à la fois impressionnant et beau, c'est de voir à quel point ton rêve était du coup clair depuis que tu étais enfant. Même si finalement, je pense qu'un rêve peut évoluer aussi, hein, parce que effectivement, nous-mêmes, on grandit, donc ça peut changer. Là, tu parlais du coup des filles de la sélection norvégienne. Mais est-ce qu'il y a des figures plus proches de toi qui t'ont inspiré? Je sais que ta maman faisait du handball, il me semble aussi.
Yeah, my mom, she played handball. So, of course, she still played when I was born and when I was a kid. So that's a little why I found handball pretty early, and I was always with her in the arena and wanted to be there, like shoot in the halftime and you know these things. So I was pretty fast into it in that way.
Et du coup, est-ce que tu dirais que tu as joué au handball pour faire un peu comme ta mère? Et quelles étaient peut-être les autres figures en fait qui t'ont inspiré quand tu étais petite?
Yeah, I guess that she was. I don't remember, of course, right now thinking about it that way, but without any doubt, my mom was that. She brought me into it and gave me the pleasure of handball in a way. So yeah, she inspired me for sure. With other persons, it's always a little hard, but I think along the way you always meet or see someone that somehow drags you in the right direction. That I think for sure. I don't feel like I have someone very specific, but like I said, Norwegian handball was pretty huge when I was a kid. So of course I looked at players like Gro Hammerseng, Edin. I remember also watching Anita Gurbits, who I play with now, Bojana Popovic, like these great big ones. So in one, and I also, of course, during club handball, you meet some coaches, some players that help you a lot, and yeah, makes you take the right choices. So, but not someone like, I don't have one name, but yeah, along the way there were some.
Mm-hmm. En fait, quand tu cites ces noms-là, donc tu parles d'Anita Gorbic, tu parles vraiment de grandes, grandes joueuses de handball. Donc finalement, tu étais inspirée par les grandes joueuses et tu voulais devenir une grande joueuse, en fait. Et je pense que c'est génial parce que je pense que tout le monde est inspiré par différents types de profils, je pense. Moi, par exemple, j'adorais les gens qui défendaient super bien. Et je trouve que bah, dans mon jeu, ça se voit, je suis quelqu'un qui est assez orienté sur la défense. Et finalement, les personnes qui t'inspirent, bah, c'est celles auxquelles tu t'identifies et celles que tu as envie de devenir, en fait. Et toi, bah, ce qui t'inspirait, c'était les grands noms. Anita Gorbic, c'est l'histoire, quoi, enfin, au niveau du handball. Et d'une certaine manière, toi aussi, t'écris l'histoire, tu vois, du handball.
Exactly. Mm. You want to be where they are, so it's very natural then to look up to people. Or, yeah.
Et donc, en fait, une fois que tu as identifié ce rêve-là, j'aimerais savoir comment est-ce que tu t'es organisée pour le réaliser. C'est-à-dire, comment est-ce que tu pourrais nous décrire ta méthode et la manière, en fait, qui a été la tienne pour devenir la joueuse que tu es devenue aujourd'hui?
Ooh, big question, I feel. It's I think it's a lot of things that impacts these things, who you end up being as a player, as a person, everything. So a complex thing. For sure, it started a lot with my family and with them being so helpful, like driving me everywhere, doing all of these basic things that means a lot, actually, in young age. I think after that, I was quite lucky being in places, in clubs, with good people around me, pretty much. I think I learned quite early how to have this drive for my own training and drive for my own development somehow, and I think maybe that is maybe one of the main things that made me the player I am today. At least when in Norway, there's a lot of focus on the physical aspects and like being a player who thinks and who like kind of takes responsibility for your own development, and that sure helped me a lot. So it was from quite young age. I did a lot of trainings during vacation, for example. I did like the groundwork quite well, I think. And I think that yeah. And at the same time, also, like I said, I took the right steps. I think I started in Norway, started playing in the first league quite early, and went to a team that was a little better, but still. So that I could play a lot, and then I went to Paris. Like it was very step by step, and then ended up in Győr. So I think that also helped me a lot, and for me also, I'm sure that moving to Paris, playing in France, that also affected me a lot. Actually, it's a little different way of playing and new impulses, and that I think really, yeah, it helps you as a player, but as a person as well, and that's a part of the total development in my view.
Mmh. En fait, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis dans le fait de prendre la responsabilité de ta carrière. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où tu rêves pour toi et que ce que tu fais, ça t'anime vraiment, Il faut être capable de te mettre en mouvement et d'avoir un plan d'action. Et je trouve que c'est vachement intéressant ce que tu dis dans le fait de dire que tu vas y aller étape par étape. Il y a un grand rêve au bout, du coup, qui est de devenir une des meilleures joueuses du monde. Mais d'abord, il faut commencer par jouer dans un club de première division. Donc, tu l'as fait en Norvège. Puis aller dans un club qui est un peu meilleur, où bien sûr le niveau de jeu est plus élevé, mais où tu auras toujours du temps de jeu pour pouvoir à la fois progresser sur le terrain et après peut-être envisager d'aller jouer dans un autre pays, ce que tu as fait en venant jouer à Paris, pour terminer aujourd'hui à Göhr dans peut-être un des meilleurs clubs européens, si ce n'est le meilleur. Et tu parlais de la différence entre le handball norvégien et le handball français. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu concrètement ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait pour, à toi de venir dans le championnat français pendant à peu près 4 ou 5 ans, je crois?
For example, moving to France, you have to adapt a lot more. Things are more dynamic in the way you play. So when you play defense, for example, you do a lot more to try to destroy the attack. In Norway, we try more to have it solid and compact. So it's the approach is quite different. And I think both if you are a defense player or if you are an attack player, that changes a lot. And you have to, yeah, you have to change your mindset a little. So that's pretty interesting, I think. And that's also why I think it's so smart of players to experience different humble cultures.
Ouais, ce que tu me dis, ça me rappelle beaucoup l'entretien que j'ai eu avec Louise Borgard, qui me disait vraiment que finalement, si elle était restée au Danemark toute sa vie, elle n'aurait pas pu élargir en fait sa vision du handball. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui lui a beaucoup apporté, comme ce que tu es en train de me dire. Et en fait, à quel moment tu as estimé bon de venir à Paris? Qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans le projet parisien? Ouais, qu'est-ce qui a fait que tu voulais partir de la Norvège à ce moment-là?
Yeah, I was going into a project in Paris that I thought looked very promising. They had big ambitions of reaching the Champions League, and at the same time, it looked like a place where I still could have a big part, like a big role, quite fast, and that was important for me as well to play and to develop that way. So yeah, I pretty much wanted to start to win things, and I wanted to challenge myself, try out a new culture, a new language. So for me, it was also like this personal part of it for sure, like just as a human to live in a big city. And all of these aspects were quite tempting as well, on top of me wanting a lot with handball.
Ouais. Il y a un truc que je trouve vachement intéressant, c'est que tu parles beaucoup d'un équilibre entre ton développement personnel, donc le fait de vivre dans une grande ville, mais en même temps d'être dans un club où tu peux jouer beaucoup. Et par exemple, moi, je me souviens que toi, quand tu étais en sélection nationale en Norvège, tu n'avais pas forcément beaucoup de temps de jeu. Donc, est-ce que pour toi, finalement, c'était important de signer dans un club où tu pouvais vraiment jouer beaucoup, à défaut, en sélection nationale, d'avoir vraiment du temps sur le terrain pour te développer et prendre du plaisir, quoi.
Yeah, for sure. I think that without any doubt, a lot of people or good players who go to great clubs right away, they can also succeed. So it's not always that you need to play a lot, but for me at least, it was very important, and I think for most players it is as well at this age. And like you said, my first 3 years with national team, I was really lucky to be there. I was very young, but I played in the championship practically nothing, so I was like the girl who was supposed to learn there, and therefore just as important, I think, to play more in your everyday life and on the club side, and like show yourself in a different arena also for the national team coach, of course.
Ouais, en fait, je trouve ça vachement intéressant de dire que comme tu n'avais pas beaucoup de temps de jeu en sélection nationale, tu as décidé de choisir à chaque fois des clubs où tu allais jouer beaucoup pour qu'en fait le sélectionneur national puisse te voir et qu'à défaut en fait en compétition internationale d'être sur le terrain, il pouvait se faire une idée de ton niveau de jeu au quotidien, dans la vie de tous les jours, quoi. Et ça, je trouve ça vachement, vachement intelligent. Et du coup, si tu devais donner je sais pas, une méthodologie pour structurer un rêve ou pour avancer en tout cas pas à pas vers un rêve, qu'est-ce que tu proposerais?
But I think that the smartest thing you can do is actually to put goals for yourself, like have something to reach after. But it's also important to not forget the short term. It's very easy to just say that I want to be there. And then it's so far away still that it feels almost impossible. So like have these big dreams, but also have smaller goals like along the way. And I think it's quite smart to try to look as realistic as you can on your own situation somehow, to find a place or a club or a coach or whatever it is where you will manage to play and get that playing time on the field, because that's what's fun about it, like to actually play. But at the same time, a place where you feel you'll be challenged. So I think that's like the most important balance maybe as a young player, to keep the fun part of it and to play and to have good people around you, and then at the same time have this little challenge, because sometimes it's supposed to be a little tough as well, or you're supposed to try to make it to the next level, and that's sometimes harder if it's too easy as well.
Ouais, en fait, c'est ouais, tout est une question d'équilibre, ouais. D'être capable de te dire OK, je vais dans un club où je peux jouer beaucoup, mais finalement juste jouer sans challenge, c'est pas forcément ouf. Donc ça peut être intéressant de se dire voilà, je fais en sorte de m'entourer des bonnes personnes, donc des bons coachs, où je vais chercher des feedbacks, d'avoir des gens qui vont vraiment m'aider à aller vers l'avant et d'avoir toi aussi un regard sur toi-même qui soit critique et qui te permette en fait de progresser tous les jours, tout en appréciant la partie vachement cool du truc, et de dire qu'en fait toi ton métier c'est de jouer, quoi. Ok. Et dans tout ça, on a l'impression que ta carrière, c'est un petit peu un conte de fées. Et justement, par rapport à ça, il y a un truc que j'ai beaucoup remarqué, moi, c'est quand, avec l'équipe nationale de Norvège, vous êtes sur un terrain, en fait, vous avez toujours, toujours, toujours le sourire. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, parce que même, par exemple, quand vous êtes derrière, vous êtes mené au score, alors...
Yeah, not when we are led by 10, then.
Oui, effectivement, pas quand vous êtes mené de 10 buts, mais je veux dire, j'ai l'impression que vous avez une espèce d'attitude où vous êtes quand même toujours confiante. Et je me demandais si c'était un peu un truc en mode « fake it till you make it » ou si vraiment vous aviez cette espèce de truc où vous vous dites que bah, c'est pas grave, vous allez revenir, ou au pire, on n'en meurt pas. Enfin, je sais pas, je me demande en fait d'où ça vous vient ce truc où vous avez toujours le sourire sur le terrain. Est-ce que c'est une attitude que vous vous construisez pour vous-même, pour affronter les moments un peu compliqués dans un match et tout? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus?
I think like the honest answer is that it's a little mix. I think that most of the time it is happiness. It's a little the way we always saw handball as kids, I think. Because when we were watching our national team, I think they quite early wanted to have that type of image of handball in a way in Norway, and it sounds a little strange maybe, but our national team coach, he always also calls us or like tries to make us smiling warriors. That's the words he uses for us in a way, and I think that started quite early with the older generations, and we're so used to watching like the best team smile a lot, and then when you get in there yourself, it suddenly feels natural. So most part of it is natural, I think. But but I also think that in certain situations, if the games are close, we have also talked a lot about the fact that how much the mental game can also make the opponents more weak. And there, this fake it till you make it thing also comes in certain occasions, for sure. So that's why I say, like, it's a mix. Yeah.
Ok, je vais bien te croire. Parce qu'en fait, je pense que, effectivement, de toute manière, quand on est sur un match, des fois, il y a des moments où on a peur, où on peut avoir voilà, certaines émotions qui nous traversent, qu'on n'a pas forcément envie de ressentir à ce moment-là. Et qu'un petit sourire à sa coéquipière ou à soi-même, ça permet aussi de nous rebooster. Donc je comprends l'idée de dire qu'en fait, c'est un mix. Déjà, vous avez une attitude, tu vois, de bonheur un peu, en mode on joue en balle comme quand on était des enfants, quoi. Et ça, je trouve ça merveilleux de se dire, bah, de ne pas oublier que c'est un jeu. Et en même temps, de se dire que ça peut déstabiliser un adversaire aussi, de se dire que tu es mené de 5 buts, mais que l'adversaire te voit toujours avec le sourire, lever les bras à chaque but et tout. Donc effectivement, je pense que l'attitude, c'est quelque chose qui joue beaucoup au handball. Et pour continuer à aller dans ce sens-là, je me demande aussi quel est ton rapport, toi, à la défaite. Comment est-ce que tu deals avec ça? Comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis de toi-même après une défaite? Quelles sont les pensées qui te passent? Comment tu le vis?
I'm quite hard at myself, actually. I'm giving myself quite a hard time, and I think that's one of the things. Maybe it made me a better player throughout the years, that I really believe. But it also made the hard parts very hard in a way. So I think I deal good with it in the matter of just development and learning from it. But I'm, like I said, I give myself a quite hard time during it. Like, I punish myself a lot. I put more blame on myself than what is maybe necessary. I'm quite self-critical in these moments. And like I said, I think that really makes you in the long run better as well, because you kind of look very like deep into yourself. But I punish myself a little in that way as well. So yeah, yeah.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'au fond, je me dis, c'est vrai que les défaites, c'est des moments où on va aller chercher vraiment en profondeur ce qui n'a pas marché. Et bon, tu vois, là, tu parles un peu de punishment et de... Ouais, de je sais pas, j'ai un rapport assez particulier à ça, c'est vrai. Mais je t'en reparle juste après. Mais je voulais savoir juste avant ça, quel est ton rapport alors maintenant avec la victoire? Comment ça se passe?
Yeah, better, definitely. I think I deal well with winning as well, because I feel that even though I've won certain things, I feel that I'm still hungry for more. And I think that's maybe a good thing if you have that, because if you're too happy about winning, then you won't necessarily win more things. But I always feel like I'm extremely happy, extremely relieved, like all of these amazing emotions that come when you win. But then it somehow... Yeah, turns into something else you want as well.
Ouais. En fait, c'est de cette balance dont je voulais parler. Le côté où on se dit, en fait, quand on gagne, j'ai l'impression que dans le sport de niveau, c'est souvent, t'as gagné, tu passes à autre chose, t'as gagné, tu passes au celui d'après. Et effectivement, de toute façon, on n'a pas le temps de rester très longtemps sur une victoire ou sur une défaite. Et en même temps, je me dis que gagner, c'est une espèce d'énergie qui est formidable. Parce qu'au final, c'est ce que tu cherches. Tu vois, tu vas jouer un match pour le gagner. Et donc, si... On se contente juste de s'auto-flageller quand on a perdu et de jamais prendre le temps d'apprécier les victoires, je trouve qu'en fait, on perd une grosse partie du côté vachement positif en fait, de notre sport, qui est toutes ces émotions positives qui nous remplissent et qui nous donnent juste envie d'aller encore plus loin, parce que 100%. Au fond, c'est ce qu'on veut. Donc, c'est aussi ce qui nous anime. Et donc, si on ne sait pas s'animer avec cette énergie-là, je trouve qu'on perd beaucoup d'énergie parce qu'on s'entraîne tellement, il y a tellement de travail que quand on prend pas le temps de profiter de ça et qu'on passe son temps juste à se flageller, à se fouetter toute la journée, je pense que c'est dommage, quoi. Et en même temps, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il ne fallait pas non plus s'attarder trop longtemps et que ce qui est intéressant, c'est d'être capable de se renouveler grâce à cette énergie-là et d'aller au match d'après, à la compétition d'après et de renouveler tout simplement nos efforts, quoi. Mais je pense que justement, c'est une énergie qui est pratique et utile pour ça.
Yeah. Without any doubt, and winning also, it gives you a lot of confidence as well. And confidence is such an important thing in sports. So for sure, like you say, failure, for sure, you will look more and you dig more after the answers when you lose. So it's an important part of it as well. But I agree with you. It's important to also appreciate what happens when you do well and do great, and use that for what's good as well.
Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais tu parles de confiance ici. Et carrément, en fait, le fait de gagner des matchs, ça te prouve aussi que tu peux le faire, quoi. Donc, ça donne beaucoup de confiance. Et est-ce que toi, tu manques de confiance parfois ou tu dirais que tu as atteint un pic de confiance dans ta carrière?
If I lack confidence? Yes, I do. I do. I do. I shouldn't give you all my secrets now, but but I lack confidence for sure. I actually get quite nervous in front of games, like close games, and I can feel all this discomfort around, is it good enough? Am I good enough? Will this be enough somehow? So yeah, I I do. I feel in general I am a quite confident person, I think, but this being insecure, it comes quite often as well in different type of doses.
Ouais. Et en même temps, je pense que yes. À partir du moment, enfin, je pense que c'est génial en fait de jamais être trop confiant ou trop confiante, parce que finalement. Si on est trop confiant pour quelque chose, j'ai l'impression que c'est peut-être parce que ça nous anime plus tant que ça, ça nous fait plus peur, on a plus peur de rater, on a plus peur de, on se challenge plus en fait. C'est qu'on va pas vers plus loin si on a plus peur, c'est qu'on est dans une zone de bah où on maîtrise quoi et on va pas chercher un peu plus loin. Et donc ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que c'est pas négatif en fait de manquer parfois de pas de fin, ouais, de confiance ou en tout cas de certitude et d'assurance parce que tout simplement ça, pour moi, ça fait partie de l'adrénaline, en fait. Et j'ai parlé aussi dans un épisode avec Manon Ouette du flow. Tu sais, cet état un peu de fluidité dans lequel t'es hyper à l'aise parce que tu maîtrises ton sujet, t'es dans le match, t'es concentré, tu penses à plus rien, t'entends plus le public, t'entends plus ce qui se passe autour de toi. T'es juste à fond dans l'activité. Toi, comment est-ce que tu le vis, ce flow? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, par exemple, je sais pas moi, sur les gros matchs, une grande finale de championnat d'Europe ou un truc comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te... un état dans lequel tu t'es déjà senti?
For me, it depends a little. I think that if you stand in those type of games and you've done good in the game so far, then I can feel a lot more that I am in the zone, that I am inside this flow. But for me, it depends a little on how I played or how the team played. And that's pretty normal, I think, as well. But if the match has been more up and down, and for me personally as well, then I do feel more distressed during the game as well. Then it's harder to put out all these other things that disturb you a little. So it sure depends on the performance and on the setting. When you manage to get into this flow, then that's all you wish for in these close games, because then things come automatically, even though you have the stress around you.
Je me demande, Stine, si aujourd'hui tu cours encore après quelque chose. Est-ce que après tout ce que tu as gagné, il y a encore quelque chose qui t'anime, quelque chose qui te manque, ou finalement tu es déjà très très accompli dans ce que tu as déjà fait, est-ce que tu as vécu dans le handball?
I'm still running after the Olympics a little, that I am. that I must say. But I also think that's just because it's the Olympics. It's what every sports person looked at when they were kids. It's just the biggest arena there is, and I think to be able to try to win something like that, that would be pretty cool. So I still have this one thing that is that hangs extremely high for me in a way. I also of course I also have dreams to win other things, to win Champions League again, to win another championship with my national team there. Yeah, it's just such an amazing feeling. So yes, but at the same time, I, like you were a little onto there, there are other things as well, and there are other things within handball that somehow is just as big win, I think. And at least I think that's something when we're done at some point, when we're finished, when we're older and going into a normal job, I think that's what I'll miss the most. Like working for something as a team, being in the locker room, joking around, having these crazy matches that you feel like you win together, you win because you prepared well and because you're there for your teammates and all of those things as well. So of course it is a lot about results when you come to this point, but to get those results, there's so many aspects to it as well that that counts and yeah, counted so much. So yeah, I really believe that when I'm finished one day, then I'll look back at and be extremely thankful for titles and these things, but I'll be just as thankful for my teammates and for the work we put in together.
Et ouais, je trouve ça génial ce que tu dis, dans le sens où je trouve que c'est une vraie chance en fait de pouvoir dire ton métier c'est de jouer, et que l'idée c'est de construire avec des filles qui deviennent tes amies en fait un projet collectif et de s'organiser tout ensemble pour gagner quoi. Et ça c'est vrai que c'est, je trouve que c'est une vraie chance en fait de vivre un rêve dans un métier pareil quoi.
It really is, and it's just so weird to think about that sometimes, that this is what I started to do when I was a kid because it was my passion, it's like my, and then to think about that it's actually your job, that's, it's pretty cool.
Du coup, pour terminer cet épisode, j'ai quelques questions de la part des auditeurs et des auditrices du podcast. Pour commencer, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ça m'a fait beaucoup rire, quelle taille fais-tu et comment est-ce que tu as réussi à en faire un avantage? Le présupposé, c'est que t'es très petite pour être une joueuse de la base arrière.
I am 168. So I'm quite small for being a back player. Yeah, of course, I think quite many of smaller back players at some point were always told almost that they were too small to play at all and to manage to reach quite a high level. So I think it's a lot about using what you have, finding your abilities, like your strengths, and then using those for all that it's worth. Like, I know that I will never go up on like 10 meters and jump over everyone and shoot. That's just not physically possible even. And then I just feel it's more about finding your way and finding your strength. For me, then it was more about using my speed the right way and using my like tempo change in my one by ones, for example. And so I think it's a lot about that, finding what you already do well and try to make it as good as possible. And of course, work on your weaknesses as well. That's important as well. But really think that as a small player, it's important to really push on push on your strengths.
Oui, finalement, en fait, tu joues sur tes qualités, quoi. T'es petit, donc tu vas plus vite que les autres. Tu peux faire des tirs un peu qui va surprendre des grandes joueuses en face de toi. Tu vas pas aller t'amuser à jouer dans un registre qui n'est pas le tien. Et ce que je trouve génial, en fait, dans le handball, c'est que justement, il y a de la place un peu pour plein de types de registres, quoi.
Yeah, for sure. And I think that's the cool part about handball. Handball is so diverse, and you have a spot for everyone. You have a spot for smaller, for bigger, for stronger, for faster, for like it's really an arena where everyone, no matter how they look or how they are, or it's room for everyone. And I think that's pretty cool. Not all sports are like that.
J'ai une autre question que je trouve très intéressante. Alors, quand tu t'entraînes, quel est le point sur lequel tu décides de mettre le focus plus qu'un autre? Est-ce que c'est plutôt sur tes points forts ou les endroits que tu as améliorés? Est-ce que tu vas plutôt insister sur ça? Ou tu vas plutôt chercher à être encore meilleur là où tu es déjà parmi les meilleurs?
Yes. Yes, 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 yes. Many things. Like we said, like we just talked about, I always try to push a lot on my strengths. But at the same time, my weak points, they have to be like, at a minimum point at least. So I'm always trying to get the good things better and then the weak points less in a way. So you can say many things. I think, for example, in defense, I struggle sometimes that I'm a little too kind in defense. People tell me that I should be a bit more of a killer, and I'm sometimes a little too nice somehow there. So that's of course something I work on, trying to be more aggressive and be a bit more up there, because being 168 and not very aggressive, that's not a good thing. So I that's really something I'm that's not a good thing. Really not. So I feel like I read the game well enough, but I still need to have that last like And that's something I feel I've always been working on and still am. And then after that, of course, I still want to develop my my shooting abilities a little. I'm in a lot of these situations, one against one, where you have a push or where you are in quite like small spaces and wide in the field. And there I still need to make my shot even better, no matter what kind of angle or position my body is in. So I have a lot to work on that as well.
Ça, c'est cool. En fait, c'est de toujours avoir en tête que tu peux améliorer tes points forts et que tu peux toujours te chercher d'autres points forts et de garder en fait tes points faibles à un niveau de faiblesse vraiment minimum, enfin, qui soit au plus, enfin, les moins faibles possibles, quoi. Et alors, encore une autre question. Quel est ton meilleur souvenir de handball, que ce soit avec l'équipe nationale ou...
Not sure. Oh, that's a hard one, because I feel there are so many great moments somehow. Let's choose. So one thing that comes quite early is the championship in 2014. It was the first championship where I played a lot. And it was also a year where people were pretty sure that, okay, this year Norway will struggle. They will not do so well. They lost a lot of these old, really amazing players. And yeah, it's a new generation coming up, and yeah, it will be tough. And then, yeah, I don't know, I played a lot with a lot of the girls that I played with, also with youth national team. And we ended up winning games and more, and in the end we won the whole thing. So somehow this championship stands out quite a lot for me, just because of that. It was, like I said, my first step into maybe the big scenery and being a part of it for real in a way. So yeah, that's.
Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière et pour les prochains mois à venir, par exemple?
Yeah, so like I told you before, we have this Olympics this summer, hopefully. That is like a huge thing for me, without any doubt. Outside of handball, I'm also really excited about making a family at one point, and being, I'm also somehow excited about being a normal person, like not having all this focus on myself somehow, because I think as an athlete your every day is only put down to yeah, making yourself feel good somehow, if you know what I mean. And I'm at some point in the future, some years from now on, then I'm a little excited about that as well somehow.
Si tu devais dire quelque chose à la Stine Oftedal quand elle était plus jeune, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui?
Yes.
Comme conseil qui pourrait servir aussi peut-être une jeune joueuse aujourd'hui qui t'écoute.
No, it's very good. Very good. I think maybe I would say that don't be too hard on yourself somehow. Like enjoy it and move past the bad stuff, and yeah, don't punish yourself unnecessarily somehow. Yes. Yes. Now it sounded like everything was really bad at 19. It wasn't at all. But you know what I mean? Just when we were onto this thing about how to deal with defeat and stuff, I sometimes think that at least for myself, I put a lot more on my shoulders than needed sometimes.
J'espère que cet épisode vous a plu. Pour moi, c'était une parfaite traduction, en fait, de la nouvelle méthode que j'ai décidé d'appliquer dans ma vie pour vivre mes rêves, à savoir de les découper en objectifs et de passer à l'action tous les jours, et puis de me rapprocher un petit peu comme ça de mon rêve, en me trompant, en me remettant en question, en appréciant aussi mes victoires et le fait que je maîtrise de plus en plus mon sujet, tout en étant capable à chaque fois d'aller chercher quelque chose d'un peu plus, qui est un peu plus haut, un peu plus loin, parce que ça me rapproche en fait de mon rêve. Et puis une fois que le rêve est atteint, tout simplement passer au rêve suivant, parce que je pense qu'on n'a jamais fini de rêver et que c'est ce qui nous permet de grandir et d'être heureux dans la vie. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié cet épisode. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé vous aussi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast que j'irai lire avec plaisir, et 5 étoiles, ça aide vraiment à la visibilité du podcast. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, donc à @onpapers, ou m'envoyer des courriers à onpaperspodcast@gmail.com. Je vous souhaite un très beau dimanche et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.